BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Notre invité ce soir dans la grande interview, enfin une grande interview un peu particulière, nous nous trouvons au cœur de Paris avec Patrice Kane, le président et directeur général de Thales.
Bonjour
Patrice Kane, merci de nous recevoir. Ici, c'est un endroit un peu particulier, au fin fond de Clichy, où vous avez vos, je crois que c'est la quatrième édition de votre Thales Media Day, mais ce qui est important, c'est qu'il est entièrement consacré à l'intelligence artificielle, parce que vous avez fait des annonces, l'annonce notamment de la création de Cortex, alors avec un AI majuscule, hein, pour montrer qu'on est bien dans l'intelligence artificielle, mais vous êtes déjà un des leaders dans la technologie, la défense et aussi dans le civil. L'intelligence artificielle, j'ai envie de dire, j'espère que déjà vous l'utilisez.
Absolument, voilà, c'est ce qu'on a voulu expliquer à nos interlocuteurs. On a plus de 600 experts aujourd'hui déjà qui travaillent uniquement sur l'intelligence artificielle, hein, parmi nos 35 000 chercheurs. C'est donc un pool très important, probablement le premier pool au niveau européen dans l'IA pour les systèmes critiques, hein, pas l'IA du grand public, l'IA pour les systèmes critiques, et qu'on applique. Alors là, on a beaucoup parlé de défense, mais on pourra parler aussi du civil et des applications pour l'aéronautique ou les satellites, par exemple. Et on a décidé effectivement de se renforcer et de s'organiser avec cette nouvelle structure Cortex pour être encore plus rapide et encore plus agile.
Qu'est-ce que ça change pour vous, en fait, l'intelligence artificielle, pardon ?
En fait, on l'utilise dans deux types, je dirais, d'applications. D'abord pour nos capteurs. Les capteurs, c'est quoi ? C'est un radar, par exemple, ou un sonar, une centrale inertielle. Ils dégénèrent énormément de données, ils sont devenus tout numériques, hein. Et donc on va les rendre encore plus performants, on va les augmenter d'un facteur 10, 100 par exemple, dans leur performance, avec du traitement à base d'intelligence artificielle, une fois qu'on a mesuré un certain nombre de choses. Et puis on utilise aussi l'IA dans les systèmes d'aide à la décision. Deuxième grande catégorie, un système d'aide à la décision, c'est par exemple un centre de contrôle trafic aérien.
Oui, pour les contrôleurs aériens.
Voilà, qui va aider le contrôleur aérien à assurer la sûreté aérienne. C'est des grands systèmes à logiciel prépondérant, 10, 15 millions de lignes de code. Et donc, par exemple, pour apporter des capacités supplémentaires, par exemple, l'optimisation des trajectoires des avions, effectivement, là, on a besoin de l'IA pour aider les contrôleurs aériens à effectuer cette tâche supplémentaire, si je puis dire, sans bien sûr les surcharger de leur mission principale, qui est la sûreté aérienne.
Alors Cortex, c'est une forme d'accélérateur de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous allez le mettre en musique, voyez, par rapport à ce que vous faites déjà et ce que vous espérez ou vous comptez faire? Parce que l'enjeu pour vous, évidemment, c'est la cybersécurité. On en parlera, on va y venir logiquement. Mais comment est-ce que vous faites pour contrôler toutes les données dont vous vous servez, dont un Rafale va servir, un contrôleur aérien? Comment vous faites pour vérifier que c'est la bonne intelligence artificielle et que ce n'est pas celle qui a été hackée par un autre?
Il y a, je dirais, plusieurs types de challenges qu'il faut relever dans nos métiers que je qualifie de critiques. C'est pour ça qu'on parle d'IA pour les systèmes critiques. Il y en a un qui est évident, qui est la cybersécurité. Il n'y aura pas d'IA de confiance, on appelle ça comme ça aussi, il n'y aura pas d'IA de confiance s'il n'est pas cybersécurisé. Alors nous avons aussi constitué un pôle de cybersécurité très puissant. On a plus de 5800 experts aujourd'hui dans le monde qui travaillent sur la cybersécurité. Donc on va utiliser cette grande force, si je puis dire, au profit de l'intelligence artificielle qu'on déploie dans ces capteurs ou dans ces systèmes d'aide à la décision. Et puis, il y a une autre caractéristique aussi, c'est que ces systèmes, ils sont très souvent embarqués. Prenez un avion de combat, par exemple, c'est effectivement un environnement très contraint, en termes, par exemple, de puissance de calcul. Vous ne pouvez pas mettre un data center sur le dos d'un avion de combat. Donc, comment on fait tourner ces fameux algorithmes d'IA dans des endroits où vous avez peu de puissance de calcul, peu de puissance électrique, et pour autant, vous avez un niveau de performance d'algorithmie qui est très élevé.
Parce qu'à la limite, l'intelligence artificielle, elle peut vous donner, elle s'appuie sur des données et elle peut vous donner des fausses données. Si on est dans la guerre Ukraine contre les Russes, par exemple, comme les Russes sont très très bons justement dans le hacking, on peut imaginer qu'ils vous donnent des mauvaises informations, enfin qu'ils arrivent à pénétrer vos systèmes.
Alors absolument, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs une équipe de hackers éthiques, ça s'appelle comme ça, hein, qui oui. s'entraîne, si je puis dire, à attaquer, d'un point de vue cyber bien sûr, des intelligences artificielles. Nous l'avons fait par exemple sur ChatGPT, hein, qui est censé être protégé.
Vous avez hacké ChatGPT ?
Absolument, voilà. Et en fait, on le fait pas par, je dirais, pur plaisir intellectuel, mais en fait, finalement, ça nous apprend ensuite quelles sont les sources de vulnérabilité potentielles dont il faut se prémunir dans nos propres systèmes, pour nos propres applications. Voilà. Mmh. Donc ces hackers éthiques, finalement, nous servent, si je puis dire, d'éclaireurs pour savoir ce qu'il faut faire comme contre-mesure dans nos propres systèmes.
Et vous avez un système complètement fermé, évidemment.
Bon, en tout cas, qui est très sécurisé. Il peut communiquer, bien sûr, avec le monde extérieur, mais avec des niveaux, je dirais, de sécurité informatique extrêmement élevés.
Mais ça veut dire que vous ne pouvez... vendre, enfin c'est pas vous qui vendez évidemment les Rafales, etc., mais il faut que ça soit que dans des mains amies et non pas des mains ennemies, parce qu'à ce moment-là ils vont récupérer votre intelligence artificielle.
Alors, c'est tout à fait vrai, mais c'est vrai d'une façon générale pour la défense, puisque de toute façon nous n'exportons rien sans une autorisation explicite du gouvernement, qui sont des autorisations à la fois politiques, parce qu'il y a des partenariats stratégiques avec tel ou tel pays, mais aussi c'est une autorisation qui s'appuie sur une analyse en profondeur des capacités techniques qui sont dans les plateformes, dans les systèmes de défense, qui sont vendus à des clients à l'international, avec effectivement des autorisations qui sont données ou pas, selon les sujets dont on parle.
Vous ne travaillez absolument pas avec Microsoft ou avec d'autres, ou avec Mistral. Vous ne travaillez pas du tout avec d'autres sociétés qui développent l'intelligence artificielle ?
On travaille en fait avec tous ces gens-là.
Ah bon ?
Absolument, c'est un écosystème, comme on dit hein, dans le jargon, qui est extrêmement, extrêmement puissant. Quand on peut travailler avec les sociétés qui sont des sociétés du monde civil, entre guillemets, parce qu'effectivement, on travaille par exemple sur des données non classifiées, des données, je dirais, qui n'ont pas de sensibilité particulière. Pourquoi se priver des avancées d'un Microsoft, par exemple, sans leur faire de la publicité ce soir, ou d'autres hyperscalers qui vous mettent à disposition des capacités très performantes. Et puis, quand il faut travailler, par contre, avec, je dirais, une notion de souveraineté, effectivement, Mistral est un très bon candidat. Et pourquoi refaire Mistral chez nous ? Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on en ait ni l'envie, ni les capacités, ni le temps. Évidemment, on s'adresse à ce moment-là à ce type de partenaires, de sociétés, pour ne pas refaire ce qu'ils ont déjà fait de manière très, très performante.
Vous êtes donc, je le disais, un leader de haute technologie. Mais ça veut dire qu'il faut que vous changiez tous les logiciels déjà existants. Parce que l'intelligence artificielle, comme vous venez de le souligner, Patrice Kane, enfin, ça multiplie les capacités de vos logiciels actuels, donc ils ne sont plus adaptés, non ? Donc c'est un investissement colossal.
On va plutôt les compléter que les changer. Effectivement,
les modifier.
On va les modifier, voilà, on va les améliorer. Vous prenez par exemple un radar de surveillance aérienne, une problématique qui aujourd'hui est assez difficile à résoudre, est la détection de drones. C'est des objets qui sont à la fois petits et lents. Hein, les drones, alors plutôt de taille 1 mètre, 1,20 m, des drones militaires. Hein. Pouvoir les repérer à 100, 150 km, c'est assez compliqué. Oui, les confondre, par exemple, avec des oiseaux. Ça a l'air tout bête, mais oui, voilà.
Bah
ça,
oui.
Ça renvoie le même écho, si je puis dire, qu'un oiseau. Et là, c'est sans changer le radar lui-même, sa physique, si je puis dire, hein, le fait qu'il émet et reçoit des ondes, vous allez le compléter avec ces fameux algorithmes à base d'intelligence artificielle qui va vous dire, ça, cette trajectoire, ce type de réflexion d'onde, c'est plutôt caractéristique d'un oiseau, donc je l'écarte. Ça, par contre, c'est plutôt caractéristique d'un drone, et donc ça, je l'affiche à l'opérateur.
Mais ça veut dire que votre radar, le fameux radar que les Ukrainiens utilisent, le Grand Master 200, pardon, ça veut dire qu'aujourd'hui, il confond un avion et un oiseau ?
Non, il a déjà un bon niveau de performance, un excellent niveau de performance. Ce qu'on essaye d'améliorer, c'est ce qu'on appelle les faux positifs. Alors, c'est un peu du jargon, je suis désolé, les faux positifs.
Allez-y.
Voilà, c'est un écho, effectivement, qui revient. Finalement, le radar, il est tellement performé qu'il mesure trop de choses. Voilà. Et donc il faut passer le bon niveau de filtrage pour donner uniquement à l'opérateur ce qui est pertinent pour lui. Voilà. Et donc effectivement, il va à la fois détecter un drone et un oiseau, mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est le drone.
Cortex, donc ça se veut un accélérateur de cette intelligence artificielle. En quoi c'est un accélérateur ? Et donc là, il y a 600 experts en fait, que vous regroupez Mais donc, en fait, c'est juste une question d'organisation ou ça va plus loin ?
Alors, c'est vrai que c'est d'abord une question d'organisation, mettre les gens ensemble pour travailler, je dirais, sur des sujets de manière à ne pas dupliquer les sujets de recherche, par exemple. Mmh. C'est très prosaïque, mais optimiser, finalement, ces ressources rares est déjà une façon d'aller plus vite, d'accélérer, c'est l'échange de bonnes pratiques, ce qu'on appelle de la fertilisation croisée aussi. Donc, il y aura une partie vraiment cortex, plutôt laboratoire à Palaiseau, d'ailleurs proche de l'AMIAD, qui a été créé par le ministère des Armées, et aussi à Rennes, où il y a un pôle très important de cyber EDIA du ministère des Armées, où nous sommes aussi déjà implantés. Et puis, on va faire la même chose pour la partie cortex factory, l'usine, si je puis dire, pour développer des cas d'usage pour les systèmes d'aide à la décision.
D'accord. Vous avez les compétences aujourd'hui ?
Absolument.
Ces compétences françaises, des ingénieurs français, ou c'est des gens que vous faites venir un peu du monde entier ?
Deux tiers français, un tiers non français, essentiellement Amérique du Nord, en l'occurrence au Canada, à Montréal, qui est un écosystème extrêmement connu dans le monde de l'intelligence artificielle. Vous avez des instituts de recherche très célèbres, comme l'IVADO, l'Institut de valorisation des données. Et puis à Singapour aussi, qui est un pays qui a de très bonnes compétences et qui est aussi très désireux de financer la recherche et qui nous finance dans ces domaines de l'intelligence artificielle.
Alors, Thales est l'un des leaders dans la cybersécurité. Est-ce que pour vous, c'est l'enjeu majeur, en fait ? C'est au cœur de votre business ?
Absolument, c'est ce que je considère être une des technologies habilitantes, comme on dit dans le jargon, qui rend possible. Comme je vous le disais, il n'y aura pas d'IA si elle n'est pas cybersécurisée. Ouais. Donc c'est vraiment quelque part un prérequis, voilà, être capable effectivement d'apporter cette IA de confiance, si on prend le cas de l'intelligence artificielle, grâce à la cybersécurité. Mais c'est aussi un très grand business pour Thales. C'est plus de 2 milliards d'euros. Cette année, je pense, on fera entre 2,3 milliards et 2,5 milliards d'euros dans la cybersécurité. Donc, ce n'est pas uniquement cybersécurité.
Vous avez fait les acquisitions, du reste, pour renforcer la cybersécurité ?
Absolument. Mmh. On a mis à peu près 10 ans pour patiemment constituer ce pôle que je considère être un des plus puissants aujourd'hui au niveau international, dans 3 domaines de la cyber, parce que la cyber, c'est un monde absolument énorme, vaste. La sécurité des données, la sécurité des applications, et la sécurité, ce qu'on appelle des accès et des identités. Sur ces 3 segments, Thales est en position de leadership mondial.
Alors moi, j'ai une acquisition pour vous, la cybersécurité d'Atos. On en avait parlé déjà, c'était au Salon du Bourget, Patrice Cade. Vous m'avez dit, n'y êtes pas du tout, il en est hors de question, nous avons nos propres systèmes, etc. Aujourd'hui, on est dans une situation critique, je ne vous le dis pas, vous connaissez la situation mieux que moi. Le gouvernement, l'État, qui est votre actionnaire, qui veut une solution nationale. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que vous m'avez dit, Niette, c'était pour le tout, que vous repreniez la partie cyber d'Atos, sachant que notamment tout ce qui est supercalculateur, etc., ça pourrait intéresser votre autre grand actionnaire qui s'appelle Dassault Aviation. Est-ce qu'on peut imaginer une solution commune ? Ou vous me dites toujours non ? Ou vous me dites un oui mais ?
Je vais vous le dire beaucoup plus poliment que non.
Soyez clair, c'est le moment de bien préciser les choses, parce qu'à chaque fois qu'on parle de ce dossier, évidemment, Thales revient sur le devant de la scène.
Ah, on ne prête qu'aux riches, on va dire ça comme ça. Pour être non pas cash, mais clair, il y a plusieurs activités dans ce pôle BDS qui anime effectivement l'actualité maintenant depuis un certain nombre de mois. Sur la partie cyber, c'est essentiellement de la cyber-service. Nous, on a mis 10 ans pour construire un pôle de cyber de produits. C'est ça notre priorité stratégique. Et donc, je ne porte pas un jugement de valeur sur la qualité de ce que fait Atos. D'ailleurs, je ne le ferai certainement pas à l'antenne. Mais c'est simplement, ça ne correspond pas à notre stratégie. C'est pour ça que j'ai dit effectivement à plusieurs reprises que ça ne nous intéresse pas. D'un point de vue industriel, ce n'est pas la stratégie que nous avons suivie et que nous comptons poursuivre dans les années à venir.
Mais si l'État vous demande d'y aller, vous irez. Et si Dassault vous demande d'y aller, vous irez.
On ne va pas spéculer et si.
Non.
Je vous réponds d'un point de vue industriel et stratégique. Oui. Ce n'est pas dans notre stratégie que d'aller vers ces domaines de cyber-service.
D'accord. Ok, moi, comme ça, la situation, c'est un peu éclaircie.
J'espère.
Voilà. C'est le non de Patrice Cayne. Après, on peut lui imposer des choses. Nos actionnaires peuvent vous imposer des choses.
Le conseil d'administration est souverain, de toute façon, sur ce genre de décision.
J'aimerais qu'on parle de l'économie de guerre. Il y a eu un discours qui a marqué du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, où on a dit maintenant, en fait, on rentre dans une économie de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il demande aux industriels de la défense, vous, d'accélérer la production, les cadences, etc. Comment ça se traduit pour Thales ?
Je crois qu'effectivement, chaque industriel peut avoir une problématique un peu différente des uns des autres. Donc il y a un discours un peu global, et puis ensuite, qu'est-ce que ça veut dire pour tel ou tel. Pour nous, en fait, on a, je pense, déjà répondu à cette demande de besoins qui sont en train, effectivement, de croître de manière très significative, qui d'ailleurs presque précédait la guerre en Ukraine, en tout cas pour ce qui nous concerne. Nous avons déjà doublé les capacités de production de nos radars, parce qu'on en vend partout dans le monde. Et donc cette capacité qui était de 10 radars par an en France, qui est passée à 20 et qui va peut-être monter à 30, bah, elle est à la disposition de notre grand client français s'il en a besoin. Mais pour le moment, nous l'avons monté effectivement en puissance parce que les besoins internationaux sont très importants. Je prends cet exemple-là parce qu'il est parlant. Bien sûr, ça ne s'applique pas qu'à la gamme des radars.
Et la montée en cadence sur l'ensemble de Thales, c'est quoi? C'est plus 10%, plus 5%, plus 20%, c'est quoi?
Bah, dans la défense, on est sur des taux de croissance chez Thales. L'année dernière, on était à peu près à 7% de croissance par an, ce qui est beaucoup pour une industrie de temps long. Si je regarde les investissements, entre 2020 et 2024, on les aura doublés. On est passé de 320 millions d'euros d'investissement, de CAPEX, comme on dit dans le jargon, à plus de 700 millions d'euros cette année. Vous voyez bien à quel point on est en train d'augmenter nos investissements. On aura recruté, parce que nos investissements, c'est aussi les cerveaux, c'est les talents qu'on recrute. Ces 5-6 dernières années, 50 000 personnes. Ouais. 50 000 personnes. Donc je pense que le groupe Thales a fait le job, si je puis dire, pour accompagner cette croissance des besoins en matière de défense.
Alors, à propos de croissance, ça fait 10 ans que vous êtes à la tête de Thales, quasiment une acquisition tous les ans. Dernière grosse acquisition, c'est Cobham. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, en fait? Qu'est-ce que ça va changer dans cette nouvelle configuration que vous venez de nous décrire?
Ben, Cobham est une vraie pépite, une vraie pépite dans le domaine de l'aéronautique, spécialisée dans la connectivité cockpit, vraiment la connectivité qui est la plus sensible, celle qui permet d'échanger des données entre le cerveau de l'avion et puis typiquement le contrôle du trafic aérien au sol.
Du reste, lorsque nous sommes vus au Salon du Bourget, on était dans un cockpit justement connecté.
Absolument. Et un des enjeux, pas le seul bien sûr, de la décarbonation de l'aéronautique civile est de pouvoir optimiser les trajectoires des avions en vol, et notamment dans les phases de décollage et d'atterrissage. Et pour ça, ça demande un dialogue au sens numérique du terme, ça ne peut pas se faire à la voix, entre le contrôleur de trafic aérien et le pilote, pour pouvoir effectivement générer, à base d'intelligence artificielle, ces fameuses trajectoires de descente continue, les échanger avec le pilote qui va acquitter la trajectoire et suivre ces trajectoires qui permettent d'économiser environ 10% de consommation carburant. Donc c'est bon pour les finances de la compagnie aérienne
et c'est bon
pour la planète.
Oui, ça c'est sûr. La prochaine acquisition, elle sera dans quel domaine?
On a trois grands métiers entre la défense, l'aéronautique et spatiale et puis tout ce qui est identité, sécurité numérique. Dans un de ces trois pôles, je ne sais pas vous dire, c'est aussi une question d'opportunité.
Une question, vous avez acquis, je crois que c'était il y a 5 ans, Gemalto. Donc c'était une solution de paiement, ça marche bien. Son concurrent, du reste, drôle, Gemalto, vous l'avez arraché aux mains de Atos, parce qu'il y avait une bataille assez homérique, on s'en souvient. Le concurrent Worldline, lui, il est en grande difficulté. Comment vous expliquez pourquoi Gemalto marche et pas Worldline?
Alors d'abord, Gemalto, ce n'est pas que du paiement.
Non, c'est pas
vrai.
Mais
en tout cas, il y avait une activité qui existe toujours d'ailleurs, de carte bancaire, comme on dit dans le jargon. Aujourd'hui, cette division, alors qui ne s'appelle plus Gemalto, mais effectivement qui en est largement issue, est devenue la division la plus profitable du groupe. Elle faisait à peu près 8% de rentabilité, on l'a passée à plus de 15% l'année dernière, qui montre bien qu'effectivement, on a su, je dirais, en réinvestissant, en innovant, devenir, je dirais, plus pertinent et plus, du coup, profitable, et enclencher ce cercle vertueux qu'on a fait pour toutes les autres activités de Thales. Maintenant, Worldline est vraiment sur un segment très différent d'une autre, que je ne saurais pas commenter.
D'accord.
Mais le domaine, effectivement, des cartes bancaires est un domaine qui se porte bien chez Thales et qui est très profitable.
Merci Patrice Kane d'avoir répondu à nos questions. Patrice Kane, le patron de Thales, était notre invité.